en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le développement végétatif des plantes, c'était le thème de la séance conjointe de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale d'agriculture qui se déroulait en mars 2009 et que nous vous proposons d'écouter dans quelques instants. Le sujet vous semble simple, ne vous y trompez pas, les chercheurs ont encore de nombreux mystères à percer quant au règne végétal. Toute plante a son architecture propre, de la pointe des racines à celle des feuilles. Comment les racines perçoivent-elles la présence des sels minéraux nutritifs et comment réagissent-elles à leur carence? Comment le sommet de la tige choisit-il d'initier un rameau, une feuille ou encore une fleur? Les intervenants de cette séance vous apportent des éléments de réponse. Cette retransmission vous est proposée en deux parties. Dans ce premier volet, écoutez l'académicien des sciences Michel Caboche. Il introduit le thème général, puis Laurent Nussaume et Yann Trace. Laurent Nussaume est directeur du laboratoire de biologie du développement des plantes au CEA Cadarache Université Aix-Marseille. Il s'intéresse à la réponse de la plante lors d'une carence en phosphate du sol. Quant à Yann Trace, il est directeur du laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'INRA de Lyon. Il évoque le développement du méristème végétatif collinaire ou développement des tiges d'une plante pour faire plus simple. Tout de suite, écoutons Michel Caboche.
Messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le président et chers confrères, en quelques mots, je voudrais essayer de brosser une présentation succincte de ce qui fait la différence entre le règne animal et le règne végétal. C'est certainement un petit peu caricatural. Je pense que ça peut être intéressant de faire cette comparaison. J'ai, par exemple, sur cette présentation ici, repris les travaux qui ont été faits sur Si elegans, le nématode Si elegans, chez lequel pratiquement toutes les cellules ont une destinée qui est liée à leur origine. Le lignage cellulaire est quelque chose d'absolument fondamental dans l'apprentissage d'une cellule à effectuer une fonction. Et lorsque cette fonction est acquise, elle est quasiment acquise définitivement, elle n'est pas réversible. Et il y a dans le règne végétal un mutant qui m'a toujours fasciné, et que je ne résiste pas au désir de vous présenter aujourd'hui, un mutant qui est affecté dans le positionnement des plans de division. Et ces plans de division dans le règne végétal sont liés à la mise en place d'un appareil qu'on appelle la bande de préprophase, qui est constituée par un réseau de microtubules. Et ce réseau de microtubules va positionner l'endroit où la paroi va s'installer pour obtenir deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Et il existe une classe de mutants qu'on appelle les mutants tonaux, qui sont perturbés dans ce processus et qui ne sont plus capables de positionner correctement le plan de division. Et ce, avec des conséquences évidemment importantes en matière de lignage cellulaire. Donc, grande différence entre règne animal et règne végétal. Dans le règne animal, le fait qu'une cellule animale garde mémoire de sa filiation permet de l'isoler et de la faire se multiplier in vitro en gardant ses caractéristiques de différenciation. Ceci montre l'importance absolument fondamentale des processus épigénétiques au cours du développement dans le règne animal. Et problème aussi, c'est qu'il est difficile de reprogrammer une cellule différenciée en cellule souche. Et je peux dire maintenant difficile, mais pas impossible, parce que comme vous le savez, grâce à la technique des IPS, on arrive à obtenir à partir de cellules somatiques maintenant des cellules qui ont des caractéristiques de cellules embryonnaires. Mais c'est une découverte très très récente, qui est un vrai bouleversement dans le domaine de la biologie animale. Dans le règne végétal, la situation est complètement opposée. Une cellule végétale peut transdifférencier, on peut la convertir in vitro en une sorte de cellule souche, et c'est la plasticité de la cellule végétale qui permet en particulier une régénération assez facile des tissus à partir de cellules isolées. Et donc les processus épigénétiques interviennent aussi, mais d'une manière différente. Ils sont gardiens de l'intégrité du génome comme dans le règne animal, et ils jouent des rôles assez importants en ce qui concerne la régulation des gènes d'architecture, et vous en entendrez parler au cours de cette session. Un autre point que je voulais présenter, qui au contraire montre certaines similitudes entre le règne végétal et le règne animal, c'est que les végétaux comme les animaux ont certains tissus qui sont en fait des tissus de cellules souches. Ce groupe de cellules a une prolifération qui est contrôlée par une assise où s'exprime un gène qui s'appelle Vuchel. Et par ailleurs, ces cellules elles-mêmes vont faire un rétrocontrôle sur l'expression de Vuchel de manière à contrôler en permanence le nombre de cellules qui sont présentes au niveau cellules souches. Encore deux mots avant de passer la parole à mes collègues. Un autre domaine où je pense qu'il est intéressant de faire une comparaison avec le règne animal. Beaucoup de régulateurs de croissance interviennent dans l'architecture de la plante et on en connaît actuellement, on en connaissait depuis longtemps un assez grand nombre, les auxines, les cytokinines, les gibbérellines, l'acide abscisique était connu depuis longtemps. On a découvert les brassinostéroïdes, plus exactement leur rôle dans l'élongation cellulaire seulement il y a une quinzaine d'années. L'éthylène aussi est un régulateur intéressant parce que c'est un gaz, il est diffusible. L'acide salicylique et l'acide jasmonique sont aussi des régulateurs importants mais qui interviennent plutôt dans les processus d'interaction entre les plantes, les pathogènes et les prédateurs. Et puis en bas, il y a les strigolactones qui sont indiqués, dont on va vous parler aujourd'hui, car cette classe de régulateurs de croissance vient tout juste d'être découverte. Imaginez dans le règne animal qu'on viendrait de découvrir cette année le rôle de l'insuline dans le développement. Ça serait une petite révolution, évidemment. Et pour nous, la découverte des strigolactones, c'est vraiment une découverte un petit peu de cet ordre-là. La chose qui est assez étonnante dans ce domaine des régulateurs de croissance, c'est qu'ils semblent utiliser des processus cellulaires qui sont assez différents de ceux qu'on connaît dans le règne animal. En particulier, il y a plusieurs régulateurs de croissance qui ont pour récepteurs des protéines impliquées dans le fonctionnement du protéasome. Et donc, c'est des processus de destruction, de dégradation des protéines que modulent en général ces régulateurs de croissance que sont l'auxine, les gibbérellines ou par exemple l'acide jasmonique. Il y a une autre classe de régulateurs qui n'existe pas tellement dans le règne animal, qui sont en fait des histidines kinases à deux composants, les récepteurs des cytokinines, par exemple, et le récepteur de l'éthylène. Et ces récepteurs-là, en fait, sont issus de la symbiose qui s'est opérée lorsque le règne végétal est apparu et lorsque des cyanobactéries ont été phagocytées, si je puis dire, et intégrées à une cellule eucaryote pour constituer des cellules végétales. Et donc ces histidines kinases en fait ont une origine bactérienne initiale et elles ont été recyclées sur des fonctions hormonales chez les plantes supérieures. Donc je termine là ma petite introduction pour vous montrer que le règne végétal a quand même un certain nombre de spécificités qui lui sont tout à fait particulières et que mes collègues vont maintenant vous détailler un petit peu plus.
Merci Michel.
Bonjour, donc je vais vous parler du développement de la racine. Je vous présente tout d'abord notre petite plante modèle favorite, Arabidopsis thaliana. C'est une mauvaise herbe, une petite crucifère qui fait quelques centimètres de haut et que vous trouvez souvent dans vos pelouses. Les recherches sur les racines ont vraiment explosé il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs avec l'introduction du modèle Arabidopsis thaliana, qui était un modèle génétique assez simple, qui a permis de faire des progrès rapides. Et pourtant elles ont un rôle fondamental. En effet, elles jouent dans l'ancrage, dans le sol, mais elle joue aussi dans la perception de la lumière et de la gravité. Une racine se déplace verticalement dans le sol et fuit la lumière. Et la perception de ces paramètres physiques se fait dans la racine. Et elle joue évidemment un rôle essentiel dans la nutrition de la plante, puisque les ressources hydriques et minérales sont absorbées au niveau de la racine et distribuées dans tout le reste de la plante, par les tissus vasculaires. Alors, il y a une grande variété dans l'architecture des racines. On distingue des grandes différences entre les espèces avec le modèle de racine type pivot. Vous avez une racine principale sur laquelle se branchent des racines secondaires, qui est très différent du modèle fasciculé, où là, on a une telle distinction entre racines primaires et secondaires ne peut plus être opérée. Vous avez ensuite, au sein d'une même variété de plantes, vous avez des plants qui ont poussé à différents endroits du monde et qui ont donc été soumis à des pressions de sélection distinctes. Ici, j'ai pris l'exemple de la pastèque. Vous avez à gauche une pastèque japonaise, donc qui pousse dans un environnement assez humide, et à droite, une pastèque qui est originaire d'Afrique, du Botswana, du désert. Et vous voyez que la pastèque de droite a tendance à faire une racine qui pousse beaucoup plus profondément. Ça, c'est une évolution, une adaptation pour aller chercher l'eau en profondeur. Il est à remarquer que là, les deux plantes ont poussé dans un même environnement. Vous avez aussi des plantes, et la même plante soumise à un stress hydrique en l'occurrence, à nouveau, a tendance à pousser en profondeur. Là, c'est une même espèce de plante, la luzerne, à gauche dans un environnement normal, à droite dans un environnement stressé au niveau du stress hydrique. Vous voyez que la racine a tendance à pousser de façon beaucoup plus profonde. Ceci illustre la plasticité de l'architecture de la racine. Alors, je vais essayer de vous introduire un peu les mécanismes qui sont impliqués pour l'élongation de la racine, pour l'émergence des racines secondaires, et vous montrer un peu de ce qu'il en est quand il y a des réponses aux variations de l'environnement pour aboutir donc à une racine qui peut être très variable au niveau de sa morphologie. Alors, la croissance en longueur des racines, ça se fait ou ça implique l'apex de la racine. Alors ça, c'est une expérience très facile à réaliser. Vous prenez un plant de haricots qui vient de germer et vous le marquez à l'encre de Chine. Et vous attendez quelques jours et vous voyez qu'effectivement, la partie qui s'allonge, c'est la partie apicale. Alors quand on dit allongement, il y a deux possibilités. Il y a multiplication cellulaire ou croissance cellulaire. Alors la multiplication cellulaire, on peut la distinguer en faisant des marquages, en utilisant de la thymidine tritiée. Vous avez incorporation au niveau des acides nucléiques dans les cellules qui se divisent. Ce sont les taches noires que vous voyez. Et vous voyez donc qu'il y a une zone qui n'est pas marquée, où il n'y a pas de division, ou très peu, et qui est bordée en bas et au-dessus par des divisions cellulaires. Ces divisions prennent place dans la zone apicale de la racine, qui correspond, Charabidopsis thaniana, à environ 250 microns. Au-dessus, vous allez avoir élongation de ces cellules en division. Elles vont donc s'allonger et enfin, elles vont se différencier pour acquérir leur identité cellulaire. La multiplication des cellules s'effectue donc dans la zone méristématique, donc à la pointe de la racine, suivant l'axe de la racine. Alors là, je vais revenir, Michel m'a gentiment introduit un peu ce type d'expérience, ce sont des ablations laser. Donc on a supprimé les cellules souches, et quand vous faites une telle expérience d'ablation, vous voyez qu'il y a des nouvelles cellules qui vont venir remplacer celles qui ont été éliminées, mais que ces cellules n'ont pas l'identité de cylindre central. On peut avec un marqueur s'apercevoir qu'elles ont acquis l'identité de la coiffe. Et ça veut dire que les cellules mortes sont éliminées et qu'il y a des cellules voisines qui vont prendre leur position et qui vont acquérir leur identité. Et donc chez les végétaux, c'est cette notion que Michel a tout à l'heure soulignée, c'est la capacité de totipotence. Et d'autres expériences d'ablation laser ont permis de mettre en évidence que l'information qui était nécessaire à l'acquisition de l'identité provenait de la partie apicale de la plante, et on a pu identifier une hormone végétale ou une substance de croissance, l'auxine. Alors l'auxine en latin, ça vient de oxeo, je grandis, donc on connaissait son rôle dans la croissance des cellules, elle a aussi un rôle très important dans l'acquisition de l'identité cellulaire. Donc vous avez un flux d'auxine qui vient de la partie apicale, qui va descendre par le cylindre central de la racine. Et ceci, ça a été démontré avec des marqueurs biochimiques. Là, vous avez des marqueurs qui indiquent l'accumulation de l'auxine. Et vous voyez à gauche un embryon. Et vous voyez l'accumulation de l'auxine qui se fait à la pointe distale de l'embryon. Et à droite, la pointe de la racine et qui explicite encore une fois l'accumulation de l'hormone et de l'auxine. Alors, cette accumulation est indispensable à la formation de la racine, puisque si vous avez des mutants qui sont incapables d'accumuler l'auxine, là, il y a eu le marquage avec l'auxine. Vous voyez que le marquage n'apparaît plus. C'est un mutant qui s'appelle Monopteros, qui intervient dans la transduction de la réponse à l'auxine, et ce mutant est incapable de former une racine. C'est-à-dire que là, vous avez un embryon. Si vous faites germer la graine, vous allez avoir les deux premières feuilles qu'on appelle les cotylédons qui vont s'épanouir, mais vous n'aurez pas de racine, et le développement s'arrêtera là. Une deuxième illustration de l'importance de ce maximum d'auxine. Alors là, vous avez une racine sauvage. Donc en haut, le marqueur qui permet d'indiquer l'accumulation de l'auxine, et en bas, le marquage de l'amidon. La zone apicale est en effet remplie de petits grains d'amidon qu'on peut colorer au Lugol. Et si vous avez des mutants qui sont perturbés dans l'accumulation de l'auxine, vous voyez qu'une simple accumulation d'auxine inférieure à la normale provoque immédiatement des répercussions sur la formation de la coiffe. Vous voyez qu'il manque une couche cellulaire. D'où le rôle essentiel de l'auxine dans la formation de l'apex de la racine. Alors comment se forme ce maximum d'auxine à la pointe de la racine? Alors c'est une des grandes avancées qui a été faite dans les 10 dernières années. On a mis en évidence des protéines impliquées dans le transport de l'auxine qui vont canaliser la descente de l'auxine au niveau du cylindre central de la plante. Alors l'auxine est un composé acide qui peut entrer assez facilement dans les cellules, mais qui va y rester piégé. Et donc, pour en faire sortir, il faut un transport actif. C'est ce que réalisent ces transporteurs. Ils sont disposés sur la partie basale des cellules et facilitent le passage d'une cellule à l'autre de la substance de croissance. Arrivé en bas, vous avez d'autres transporteurs sur les couches externes qui vont favoriser la remontée de l'auxine et d'autres qui, telle une fontaine, vont la recanaliser vers le centre de la plante. C'est ainsi qu'on forme un gradient d'auxine à la pointe de la racine. Maintenant, je vais évoquer la ramification des racines. Alors, ça fait intervenir une assise cellulaire interne qu'on appelle le péricycle. Et les cellules qui sont capables de donner naissance à des racines secondaires sont celles qui jouxtent les vaisseaux de xylème, qui conduisent la sève élaborée, c'est celle qui remonte, c'est celle qui conduit l'eau et les sels minéraux absorbés au niveau des racines et qui sont dirigés vers les feuilles. Seules les cellules qui font face à ces pôles de xylème du péricycle sont capables de donner naissance à des racines secondaires. Alors, les racines du péricycle sont bloquées en phase G1 de division, alors que les racines qui font face au pôle de xylème sont en phase G2. Et ce sont les seules qui sont capables d'entrer en mitose pour donner naissance à une racine secondaire. Alors, je vous illustre le processus au cours du temps pris en microscopie confocale. Donc, vous avez, en partant de la phase 1 à la phase 8, l'émergence d'une racine secondaire à partir des cellules du péricycle. Vous avez formation donc d'un petit apex qui ressemble en tout point à celui que je vous ai déjà présenté dans la racine primaire. Alors, nous sommes capables d'identifier des marqueurs marquant spécifiquement les cellules du péricycle qui peuvent entrer en division. Et ces cellules font face effectivement au pôle de xylème. Et l'apparition de ce marqueur est liée au développement et à la différenciation des cellules du xylème que vous apparaissez ici sous forme annelée visualisée par la petite flèche. Ça donnait naissance à un modèle que nous avons bouleversé il y a 2 ans, puisque nous avons trouvé des nouveaux marqueurs qui marquaient spécifiquement ces assises cellulaires, mais qui descendaient jusqu'à la coiffe, et donc étaient indépendants de la formation du xylème. Suggérant donc que le modèle qui préexistait avant, où les cellules qui avaient la capacité de donner naissance à des racines secondaires étaient liées au pôle du xylème, ou à la différenciation du pôle du xylème, était faux, et donc il y avait acquisition de cette capacité dès la pointe racinaire, donc tout à fait en bas de la racine. Maintenant, je vais vous illustrer des effets de l'environnement sur l'architecture de la racine avec l'exemple du stress phosphate. Alors, le phosphate est un élément minéral essentiel au développement de la plante. On peut faire pousser une plante dans un milieu riche, plus ou moins riche en phosphate. Si vous carencez le milieu, la plante va adopter un phénotype très particulier, elle va avoir une architecture restreinte et on module totalement le développement de la racine. On arrête la croissance de la racine principale et on favorise le développement des racines secondaires. Alors, vous avez donc une limitation de la biomasse. Alors, c'est pas étonnant, vous avez une carence alimentaire, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un effet bonsaï. Vous limitez la nutrition et vous attendez à une réduction de la taille de la plante. Et on s'est aperçu récemment qu'il n'en était rien. Parce qu'en effet, si la plupart des plantes soumises à un stress phosphate présentent cette architecture réduite de la racine, là vous avez des écotypes d'Arabidopsis thaliana qui proviennent de différentes régions du monde, on peut en identifier certains qui ne présentent pas cet arrêt de croissance. Vous avez à gauche en particulier l'écotype B0 qui ne arrête pas sa racine primaire de croître et qui continue même en carence à s'allonger. Suggérons donc que la limitation de développement qu'on voyait n'est pas une limitation métabolique, mais une limitation génétique liée à un programme génétique qui permet de percevoir l'environnement et de s'y adapter. Donc en étudiant les différences entre deux écotypes qui avaient une architecture très contrastée, l'écotype Chagdara et B0, on a pu identifier 3 portions de chromosomes responsables dans ces différences d'architecture. Et on a cloné la région de chromosome située sur le chromosome 1, qui était un déterminant majeur de ce polymorphisme, pour aboutir à un gène qu'on appelait LPR1 pour Low Phosphate Response 1. Alors, la différence entre une racine qui arrête son développement et une qui continue, c'est l'expression de ce gène dans la coiffe. Une racine qui va arrêter le développement exprime le gène LPR1 dans la coiffe de la racine, comme vous le voyez à gauche, alors qu'une qui ne l'arrête pas, en revanche, n'exprime pas ce gène. Ça a permis donc de mettre en évidence que la coiffe était une zone de perception pour la carence minérale qui influençait la division et l'élongation cellulaire. LPR1 est une enzyme, c'est donc en rien un mécanisme impliqué dans la perception du phosphate par lui-même. Et là, pour le moment, on a un échec. On ne connaît toujours pas, au niveau minéral, quels sont les senseurs dans le monde végétal. Notre vision, c'est que c'est probablement un peu comme un oignon, il y a plusieurs couches de protection, et c'est pour ça qu'actuellement, on n'arrive pas à les identifier. Même quand on en enlève une couche, il reste une deuxième couche qui empêche d'atteindre les mécanismes en question. Alors là, je vais vous présenter maintenant 2 stratégies qu'on a mise en place pour essayer d'éliminer toutes les couches de protection sur les mécanismes de perception des ions, pour simplifier en gros le système. La première, ce sont les flux de phosphate. Pour faire entrer le phosphate, vous avez besoin de transporteurs. Et chez la racine, pour les transporteurs de phosphate, il y en a 9. Et donc c'est très difficile à manipuler génétiquement. Donc pour contourner ceci, on a trouvé une petite stratégie, puisque certains des transporteurs sont même présents sous forme de plusieurs copies ou même de plusieurs gènes dans les mêmes assises cellulaires. Alors les transporteurs ont besoin d'arriver à la membrane pour jouer leur rôle, donc ils vont suivre un cheminement complexe de maturation. Et là vous avez un transporteur qui est marqué avec une protéine fluorescente, vous voyez qu'effectivement il est localisé principalement dans la membrane plasmique. Et nous avons identifié conjointement avec une équipe espagnole un mutant qui implique une protéine du réticulum endoplasmique nécessaire pour la maturation des transporteurs. Si cette protéine est absente, les transporteurs ne peuvent atteindre la membrane plasmique et restent localisés dans le réticulum endoplasmique. Nous avons donc utilisé ce mutant qui affecte l'ensemble des transporteurs de la plante pour manipuler le transport de phosphate dans la plante. Nous avons les capacités de réexprimer cette protéine dans le mutant de façon localisée, au même niveau que les protéines fluorescentes. Donc on peut restaurer un transport dans la coiffe, dans l'épiderme, dans le cylindre central, donc chaque assise finalement cellulaire de la racine, pour étudier le rôle du transport de phosphate dans chaque assise indépendamment des autres. Et je vais vous présenter un résultat. Vous avez ici l'accumulation de phosphate. Donc sans transporteur, il n'est pas étonnant de voir que même sur un milieu riche, les plantes mutantes à gauche ne peuvent accumuler le phosphate comparé à la plante sauvage à droite. Vous avez environ 80% de phosphate en moins dans les plantes. Si vous complémentez le transporteur dans la coiffe, qui ne représente que 150 cellules, donc une partie infime de la racine, il n'est pas étonnant de voir que vous ne complémentez pas la quantité de phosphate dans la plante. En revanche, on a une surprise, c'est que si vous utilisez des marqueurs de carence, ces marqueurs prennent une couleur bleue quand la plante est carencée, le mutant effectivement présente cette couleur bleue puisqu'il n'a pas de phosphate, et ça c'était normal. La plante sauvage, je ne vous la présente pas, est totalement blanche, le marqueur est absent. En revanche, si vous restaurez dans la coiffe, vous voyez que vous perdez dans tout le reste de la racine la perception de la carence en phosphate. Ce qui veut dire donc que la coiffe joue un rôle dans la perception du phosphate pour la division et l'élongation cellulaire, mais aussi pour la carence au niveau des nombreuses réactions métaboliques qui en ont besoin. Alors pour identifier les mécanismes impliqués dans la perception, généralement on fait appel à la génétique. Donc on recherche des mutations, on cherche à détruire la voie de transduction et à perturber la réponse. Mais si les voies sont redondantes, ce n'est pas fonctionnel, car il est impossible au niveau des fréquences de mutation d'arriver à muter simultanément les deux gènes qui auraient des fonctions homologues. Et pour ça, on a utilisé une nouvelle stratégie qui est la génétique chimique, c'est-à-dire qu'on a recherché des drogues qui bloquent les protéines. Si effectivement on arrive à identifier une telle drogue, elle bloquera les protéines homologues et donc l'ensemble de la cascade de transduction. Le problème, c'est qu'effectivement, comme on n'a aucune idée des drogues sur lesquelles il faut chercher, il faut être capable de regarder des banques très complexes de milliers de molécules. Alors voici le crible qu'on a utilisé. Vous avez maintenant l'architecture d'une plante qui a poussé en milieu riche en phosphate à gauche, à droite en milieu carencé. On a introduit en plus un marqueur de carence, c'est pour ça que la plante est bleue. Et on a cherché des drogues qui, sur milieu riche, permettaient de provoquer un phénotype de plante carencée, ou inversement, qui ajoutait un milieu carencé, levait l'aspect carencé chez la plante, donc la réduction de croissance. Alors la difficulté c'était d'arriver, on a des telles drogues, mais elles sont généralement fournies en quantité infinitésimale, donc il fallait miniaturiser le test, c'est ce qu'on a fait. Là vous avez une plaque de microtitration, les petits puits font 5 mm, ce qui nous permet donc de développer des tests où on utilise une centaine de microlitres de produits pour faire pousser les plantes. Donc on a pu passer plusieurs milliers de composés et identifier des drogues. Alors la première à gauche permet de supprimer l'effet de la carence. Vous voyez que rajouter dans un milieu carencé, la racine effectivement maintenant reprend une élongation presque normale. Il y a quand même besoin de phosphate, donc c'est normal qu'à la fin on ait une plante un peu plus petite que le témoin. Ou inversement, qui rajouter un milieu riche vont provoquer une réduction forte de croissance. Et ça, ce n'est pas un effet toxique. En effet, vous avez ici un marqueur de carence et vous voyez que sur la plante, le marqueur de carence est spécifiquement allumé par l'injonction de la drogue que nous avons identifiée. Alors ce marqueur de carence est un transporteur de phosphate. En effet, la plante réagit en carence en essayant de surproduire les transporteurs pour augmenter ses chances de récupérer le phosphate à l'extérieur. Donc si vous placez la plante sur un milieu riche, vous accumulez le phosphate. Donc à gauche, vous avez les plantes poussant sur un milieu riche, donc elles accumulent du phosphate plus que sur un milieu pauvre, comme vous le voyez au centre. Mais si vous rajoutez la drogue sur un milieu riche, comme vous induisez tous les transporteurs, les plantes vont suraccumuler le phosphate et on en a à peu près deux fois plus que le contrôle. Et malgré le fait qu'elles accumulent le phosphate, elles ne le voient absolument pas. Une plante qui est en carence de phosphate va mettre en réserve l'assimilation des sucres sous forme d'amidon dans les feuilles, de petits grains d'amidon qu'on visualise avec une coloration à l'iode. Donc une plante carencée a cette coloration caractéristique visible sur l'allée centrale. Et vous voyez que la jonction de la drogue provoque elle aussi l'accumulation d'amidon dans les plantes traitées. Donc nous avons testé de nombreux traits liés à la carence chez les plantes et la drogue semble les allumer tous, suggérant qu'elle agit de façon très proche de la perception de la carence. Et nous sommes en train de rechercher les cibles de ces drogues. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le développement d'une racine pouvait être complexe, vous avoir initié au rôle de l'apex racinaire dans la croissance de la racine, dans l'acquisition de l'identité cissulaire et enfin dans la perception de l'environnement. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail. Donc au sein de mon équipe, tous mes collègues chercheurs et en particulier Thierry Desnos qui a été à l'origine du clonage du QTL. Je voudrais insister sur le rôle d'ailleurs dans le clonage de deux postdocs particulièrement talentueux, Mathieu Raymond et Sergio Swistounov. Pour le développement de la racine et le rôle des assises du péricycle, c'était le travail d'un thésard, Boris Parizeau. Et pour les manipulations du phosphate, c'est les travaux de Vincent Bayle et de Jean-François Régui. Tous les travaux de génétique chimique ont été menés par Mathilde Clément, actuellement en postdoc au laboratoire, et deux thésardes qui débutent, Carole Arnaud et Clémence Bonneau. Alors, nous avons bénéficié pour ces travaux de nombreuses aides. Tout d'abord de l'INRA, grâce aux nombreuses collections de mutants qu'ils ont générées, donc aux travaux pionniers en la matière de Georges Pelletier et de Nicole Bechtol qui avaient mis en pratique et en musique toutes ces expériences. Ça a totalement révolutionné notre approche de la génétique. On a bénéficié du travail aussi d'Olivier Loudet sur le développement des lignées utilisées pour le clonage des QTL. Et enfin, tous les travaux que je vous ai présentés sur le développement de la racine primaire et de l'architecture sont le fait d'autres équipes. Et je voudrais citer en particulier les travaux de Ben Cheres et de Phil Benfey, de Malcolm Bennett, et pour le trafic de l'auxine de Klaus Palme, de Jerry Frimmel, et j'avais oublié dans les racines secondaires Tom Beckman. Voilà. Il y avait eu des précurseurs Liam Doolan, et je cite enfin Laurent Laplace, qui est un jeune collègue de l'IRD, qui fait des travaux très talentueux sur une autre hormone, les cytokinines. Je vous remercie pour votre attention.
Je voudrais tout d'abord remercier Jean-François Moreau-Caudry et Georges Pelletier de m'avoir invité ici aujourd'hui pour vous parler du méristème apical collinaire cette fois-ci, c'est-à-dire on va s'intéresser à la partie aérienne de la plante. Alors quelques mots d'introduction, Michel Caboche nous a déjà attiré l'attention sur les différences entre les animaux et les plantes, je voudrais tirer aujourd'hui aussi l'attention sur une autre différence, c'est-à-dire que d'habitude les animaux produisent un nombre d'organes limité, ce qui n'est pas du tout le cas chez les plantes, c'est-à-dire au cours de l'embryogenèse, la plante forme un organisme relativement primitif. Dans cet exemple-là, vous avez juste une tige embryonnaire, deux feuilles embryonnaires, une racine embryonnaire, et tout le reste donc de la plante va être élaboré à partir de deux populations de cellules souches, c'est-à-dire le méristème racinaire dont Laurent vient de nous parler et le méristème apical collinaire dont je vais vous parler maintenant. Alors au cours des 15 dernières années, il y a une quantité assez impressionnante de travaux qui ont été effectués. Laurent et Michel ont déjà fait référence à ces travaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous montrer quelques exemples, notamment de mutants. Ici, des mutants floraux, où le nombre de pétales, par exemple, est modifié de façon assez dramatique. Des mutants de floraison, qui sont incapables de former des fleurs. Ici, un mutant de transduction du sugno, plutôt du transport d'une hormone végétale dont on vous a déjà parlé, c'est-à-dire l'auxine, qui est incapable de former dans ce cas-là, des boutons floraux. Donc, d'un côté, on a cette analyse génétique. D'un autre côté, nous savons beaucoup de choses sur l'endroit où ces gènes sont actifs. Donc, tous ces travaux nous ont permis, en fait, de dresser une première vue des réseaux de régulation qui contrôlent le fonctionnement de ce méristème. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer un modèle, plutôt une version un peu formalisée de ce réseau de régulation. On voit des interactions, des gènes qui vont stimuler d'autres, aussi des entrées au niveau des hormones, comme l'auxine, dans ces réseaux de régulation. Et la question qui se pose maintenant en biologie du développement chez les plantes, mais aussi chez les animaux, bien sûr, est de comprendre comment ce réseau est lié à la forme qu'on voit effectivement. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. Nous savons très très peu de choses sur ce lien-là exactement. Et comprendre comment les gènes donc, sont liés à la géométrie finalement de la plante que nous voyons est un défi vraiment majeur. Je voudrais juste illustrer ça à partir en utilisant un phénotype d'un mutant très spécifique qui nous intéresse actuellement, qui est le mutant Perientia ou PAN. Donc quand ce gène Perientia ou PAN est inactivé, on va avoir une fleur avec 5 pétales. Et donc, bon, on peut dire que le gène sert donc à limiter le nombre des pétales à 4. Jusqu'à maintenant, on était parfaitement heureux, satisfait avec ce type d'analyse fonctionnelle. Mais si nous voulons vraiment comprendre quel est le rôle de PAN dans en fait, la mise en place de cette forme de la fleur, ben, il faudra être beaucoup plus précis dans notre description du phénotype. Il y a quelques années, Rico Cohen, en Angleterre, avec son collaborateur Andrew Bangham, nous ont proposé en fait, un cadre géométrique pour adresser ce problème. Ils nous ont rappelé tout simplement que tout changement de forme peut être décrit avec un nombre de paramètres extrêmement simples. On a premièrement la vitesse de croissance, donc de façon intuitive on peut très bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a bien sûr l'anisotropie de la croissance, et puis il y a des paramètres qu'on peut appeler des paramètres peut-être un peu mineurs, comme la direction ou la rotation. Typiquement la rotation n'est pas vraiment un facteur majeur de la croissance. On peut aussi le considérer comme bon, une différence de point de vue aussi de la personne qui regarde la zone en question. Toujours est-il, si nous voulons comprendre la fonction d'un gène comme PAN dans la morphogénèse, ben, il va falloir en fait exprimer la fonction de PAN en termes de vitesse de croissance locale et d'anisotropie locale. Et donc, il faut que nous fassions tout un travail très descriptif de cette croissance avec, donc, à l'échelle vraiment cellulaire, si nous voulons aller plus loin dans notre compréhension de la fonction de ces gènes. Donc ça, c'est la partie descriptive du travail qui nous reste à faire ou qui est à faire actuellement. Mais bien sûr, il ne faut pas se limiter à une description pure, il faut aussi s'intéresser en fait aux mécanismes qui sont à la base de ces déformations. Donc, comme vous le savez sans doute, chaque cellule végétale est entourée d'une paroi rigide qui est composée en grande partie de réseaux de polysaccharides et notamment de microfibrilles de cellulose. Donc, je voudrais aujourd'hui juste parler d'un seul aspect, c'est-à-dire justement de cette orientation des microfibrilles et cellulose. Nous savons déjà depuis un certain temps que des éléments du cytosquelette végétal, donc qui se trouvent dans la cellule, et notamment les microtubules, qui sont des filaments protiques attachés chez la plante à la membrane plasmique, et jouent un rôle donc, dans l'orientation de ces microfibrilles et cellulose. Ici, vous voyez l'orientation de ces microtubules dans des cellules méristématiques vivantes, et vous pouvez constater que tous ces microtubules sont parallèles dans une cellule, et donc l'hypothèse qui est maintenant acceptée un peu partout est que justement les microfibrilles et cellulose vont être orientées par ces microtubules. Donc il nous a paru très logique de regarder la dynamique de ces microtubules dans le cytoplasme, parce que ces microtubules sont justement à la base en fait de la structuration de la paroi. Et donc nous avons analysé, quantifié le comportement de ces microtubules, et nous sommes allés voir des équipes de physiciens à l'ENS, ici à Paris, et qui nous ont dit, si vous acceptez trois hypothèses très importantes, c'est-à-dire une couche extérieure très rigide, un tissu élastique, donc le tissu végétal est élastique, et aussi le fait que le tissu végétal soit sous pression de turgescence interne, eh bien, des lois de la mécanique de base prédisent en fait la distribution suivante des forces à la surface de l'apex de la plante. Notamment ici, au sommet de l'apex, on va trouver des orientations, des forces dans toutes les orientations. On va trouver le long de la tige, surtout les forces majeures dans l'orientation circumférentielle. Et au niveau de la séparation entre le méristème et le primordium, eh bien, surtout une orientation des forces dans ce sens-là. Et donc, pour résumer, nos collègues Areski Boudaoud et Yves Couder nous ont donc montré qu'effectivement, il y a une très forte corrélation entre l'orientation des microtubules et l'orientation des forces principales. Donc, bon, il y avait cette hypothèse que les microtubules, effectivement, s'alignent au champ de force à la surface du méristème. Et donc, il fallait ensuite tester cette hypothèse. Nous avons, en collaboration notamment avec une équipe aux États-Unis de Marcus Heisler et Elliot Meyerowitz, fait une série d'expériences. Ils nous ont fait une chambre de culture où on fait pousser la plante. Dans le haut de cette petite chambre, il y a un trou et donc par laquelle passe le méristème. Et ensuite, on peut donc en fait utiliser deux plaques en teflon pour changer de façon assez dramatique la forme du méristème. Dans un globe, on va récupérer vraiment des ovales. Et donc, on peut ensuite regarder ce qui se passe au niveau des microtubules. En fait, dans la plupart des cellules, cette orientation change. Cette orientation n'est pas la même dans toutes les cellules parce que physiquement, ce n'est pas, bien sûr, un milieu très homogène. Mais quand on mesure en fait, ces réorientations, on peut constater qu'une maximum de... une majorité des cellules alignent en fait leurs microtubules le long des champs de force prédits. Donc on a cette hypothèse où les microtubules qui contrôlent l'anisotropie de la paroi et donc la croissance anisotropique vont générer des forces qui vont en fait par un feedback contrôler l'orientation des microtubules. Alors quelle serait la fonction de ce mécanisme ? Eh bien on peut tester la fonction de ce mécanisme tout simplement en enlevant les microtubules en utilisant des drogues bien connues, des herbicides comme l'orizaline, qui vont dépolymériser ces microtubules. Ce qui se passe, c'est que les cellules vont arrêter leur division, mais vont continuer leur croissance. Ce qu'on peut constater, c'est deux choses. Premièrement, que la croissance des cellules continue et que les cellules dans les jeunes boutons floraux ici grandissent beaucoup plus vite que les cellules dans le méristème même. Donc, en gros, les profils de croissance sont maintenus. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que de nouveaux primordia de fleurs ici, mais c'est vrai aussi pour les feuilles, sont initiés en absence de microtubules. Par contre, ce qu'on n'observe plus, c'est la formation de pliures entre le primordium et le méristème. Il n'y a plus ces plis qui se forment. Et au lieu d'avoir des structures cylindriques au niveau de la tige, on va observer plutôt des structures en forme de boule. Donc, il semble qu'on ait deux processus. Premièrement, ce processus de feedback par les microtubules, croissance anisotropique par les forces, nécessaire pour la pliure des tissus, une surface régulière et une tige cylindrique. Et ça peut être découplé d'un deuxième processus, indiqué ici, qui contrôle la synthèse même de la paroi, donc la croissance, vitesse locale de la croissance, qui serait notamment contrôlée par des accumulations locales de l'hormone l'auxine. Et donc ces deux processus, on peut les découpler, parce que quand on inactive celui-là continue à travailler. Et donc c'est ensemble que ces deux processus qu'on peut découpler via ce feedback sur les microtubules notamment, vont donc définir la forme de la plante. Donc ça, c'est l'hypothèse. Maintenant, est-ce qu'un tel mécanisme peut reproduire les phénomènes observés ? Eh bien, pour tester cette hypothèse, ce que nous avons fait, c'est que nous avons contacté des équipes de modélisateurs qui ont essayé de modéliser ces phénomènes en utilisant donc des modèles mécaniques des tissus. Donc, je vous donne un exemple de ce type de modèle. En fait, l'idée est de représenter les cellules ou les parois qui se trouvent à la surface du méristème par un réseau de ressorts. De cette façon-là, chaque paroi, en fait, est un petit ressort. Les coins des cellules, donc, sont connecté par ses ressorts. Chaque ressort a une taille L0, une taille réelle L, parce que les tissus sont sous pression, et chaque ressort aussi a une rigidité K. Et donc on peut introduire de la croissance en mettant en gros de la pression virtuelle à l'intérieur de cette structure et en changeant la longueur au repos de ce ressort. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le feedback dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quand le modèle va ressentir des orientations de force, de façon très simple, simpliste, vous voyez donc les deux forces orientées de cette façon-là, on peut demander au modèle, en fait, de rigidifier ces ressorts-là de façon à résister à ces mêmes forces. Et donc, c'est exactement cette hypothèse qu'on avait proposée. Et la question, c'est donc, est-ce qu'un tel modèle peut reproduire les phénomènes que nous avons observés in vivo? Donc, pour résumer, les modèles mécaniques donc, reproduisent d'un côté une tige cylindrique, ou peuvent simuler la formation d'une tige cylindrique. Deuxièmement, la formation d'un primordium bien défini. Et donc, on reproduit aussi qualitativement l'orientation des microtubules. Et ça peut paraître trivial, mais ce qui nous a impressionné beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de scénario préétabli dans ce cas-là. Ce que vous voyez, les formes qu'on génère là sont vraiment le résultat de ces modèles extrêmement simples. Tout ce qu'on a demandé à chaque cellule individuelle, c'est de résister aux forces, et donc avec les paramètres de rigidité des parois correctes, nous pouvons donc reproduire un certain nombre de phénomènes qui ont été observés. Donc au début de mon exposé, je disais, bon, ce qu'il faudrait faire, c'est exprimer l'activité des gènes sous forme de ces étiquettes, je dirais, géométriques. Et donc là, je pense que c'est toujours très important. Mais en même temps, il faudra aussi qu'on essaye de comprendre comment ces mêmes gènes contrôlent d'un côté l'anisotropie et donc l'orientation des microtubules et la synthèse de la paroi, pour comprendre en fait la mise en place des formes spécifiques que nous voyons. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voudrais juste remercier un certain nombre de personnes qui ont collaboré avec le travail que je vous ai montré, notamment donc à Lyon, dans notre équipe, le travail d'Olivier Amand et Magali Huitoal, qui ont fait, et Pradip Das, qui ont fait la plus grande partie de l'imagerie. Et nous avons des collaborations avec l'Institut des systèmes complexes à Lyon, l'ENS à Paris, dont je vous ai parlé, l'équipe de Christophe Godin et l'équipe de Elliot Meyerowitz et Marcus Heisler à Pasadena et l'équipe de Henrik Johnson en Suède. Je vous remercie pour votre attention.
C'était Yann Trace, directeur du laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'INRA de Lyon. Il évoquait le développement du méristème végétatif collinaire. Le précédait Laurent Nussaume, directeur du laboratoire de biologie du développement des plantes au CEA à Cadarache. Il s'intéressait à la réponse de la plante lors d'une carence en phosphate du sol. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez la deuxième partie de cette séance et retrouvez Christian Dumas de l'Académie des sciences, Patrick Lopes et Catherine Rameau. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.